pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les débrouillards et les as de l'info. À la découverte de Titan. Un texte de Simone Caron, paru le 25 mars 2024 sur le site Les débrouillards. Y a-t-il de la vie sur Titan? Cette lune de Saturne est-elle habitable? À quoi ressemblent ces paysages? Dragonfly tentera de répondre à ces questions. Atterrissage prévu en 2034. Un laboratoire volant. Le drone Dragonfly, libellule en anglais, survolera les dunes de Titan sur des centaines de kilomètres et prendra plein de photos. Il récoltera aussi des données atmosphériques. Ainsi, les scientifiques analyseront la composition chimique de Titan. Trouveront-ils des traces de vie? Des lacs et des rivières de méthane. Sur Terre, il y a le cycle de l'eau. Sur Titan, il y a le cycle du méthane. Là-bas, on retrouve des nuages, des pluies, des lacs, des rivières et des océans de méthane. Repensez l'origine de la vie. Sur Terre, l'eau est essentielle à la vie. Mais les scientifiques se demandent si la vie pourrait naître à partir du méthane sur Titan. C'est pourquoi la mission Dragonfly suscite tant d'enthousiasme. Sous sa surface et son atmosphère dense, Titan possède une croûte de glace. L'arbre, notre meilleur ami végétal. Un texte de Bruno Lamollet, paru le 25 mars 2024 sur le site Les débrouillards. Les arbres sont essentiels à l'équilibre écologique et à notre bien-être, et ils n'ont pas fini de nous rendre service. Un protecteur de l'environnement. Quelle est l'importance de l'arbre dans la nature? Il est au cœur de transformations et d'échanges essentiels, déclare le biologiste Frédéric Pitre. Par exemple, l'arbre absorbe l'eau du sol, puis il libère de l'humidité par ses feuilles. Un gros avantage de l'arbre, c'est sa longue croissance, affirme Frédéric Pitre. Pendant tout ce temps, il absorbe beaucoup d'eau et il aide à nettoyer le sol. De plus, grâce à ses racines étendues, il assainit le sol sous une grande surface autour de lui. L'eau absorbée par les racines entraîne avec elle des polluants qui finissent emprisonnés dans l'arbre. Plantés en bordure des champs, les bandes d'arbres riveraines interceptent les engrais et les pesticides avant qu'ils polluent les rivières. Un refuge pour tous. Les arbres sont aussi un refuge pour la biodiversité. Ils fournissent un abri à de nombreux oiseaux, mammifères, insectes et champignons. Dans un trou, sur le tronc ou au milieu du feuillage. Friands de gaz carbonique. L'excès de gaz carbonique dans l'atmosphère contribue beaucoup au changement climatique. Comment en retirer un maximum? Avec des arbres. Pour un arbre, les molécules de gaz carbonique sont comme des blocs Lego. Il en absorbe par ses feuilles pour construire ses propres molécules. Ainsi, il retire du gaz carbonique de l'atmosphère et contribue ainsi à la lutte contre les changements climatiques. Pour cette raison, on plante de plus en plus d'arbres. Par exemple, le gouvernement canadien veut en planter 2 milliards d'ici 2030. Un peu d'ombre. L'été, le béton et l'asphalte des villes absorbent la chaleur du soleil et font monter la température, heureusement. Les arbres rafraîchissent l'air ambiant. Leur feuillage réfléchit les rayons du soleil et produit de l'ombre. Et par transpiration, les feuilles émettent une humidité fraîche. De plus, les arbres aident à dépoussiérer l'air environnant. Leurs feuilles sont recouvertes d'une mince pellicule protectrice, collante pour les fines poussières. Plus de repas gratuits pour les élèves qui ont faim. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 4 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Aller à l'école le ventre vide, c'est loin d'être drôle. Le gouvernement du Canada a donc décidé d'en faire plus pour aider les enfants qui ne mangent pas à leur faim. Dès la prochaine rentrée, encore plus de lunchs gratuits seront offerts aux élèves canadiens. On décortique cette nouvelle pour toi. Avoir faim, ça nuit à la concentration, parce que notre cerveau a besoin d'être nourri pour bien fonctionner. Au Canada, on évalue qu'un enfant sur quatre ne mange pas à sa faim. C'est presque 2 millions d'enfants. C'est beaucoup trop. Le premier ministre Justin Trudeau veut que ça change. Il a annoncé qu'il lançait un programme d'alimentation scolaire. Dès septembre, ce sont 400 000 enfants qui vont avoir accès à des repas santé à l'école. Tout ça devrait coûter 1 milliard de dollars répartis sur 5 ans. Cette idée n'est pas nouvelle. En fait, le Canada fait partie d'un groupe de pays appelé le G7. Et il est le seul à ne pas avoir de programme pour fournir des repas aux élèves. Le Québec pas emballé par cette nouvelle. Le Québec n'est pas contre le fait de nourrir les élèves, évidemment. Par contre, le gouvernement du Québec trouve que le gouvernement du Canada ne se mêle pas de ses affaires. Il rappelle que l'école, c'est la compétence ou la responsabilité du Québec et non du Canada. Je te donne un exemple pour mieux comprendre. Ton cousin et toi adorez les Legos. Et vous construisez à deux une ville. Tu t'occupes des rues, des ponts, etc. Ton cousin, lui, c'est l'expert des maisons. Arrive un moment où ton cousin trouve un paquet de blocs gris et noirs parfaits pour tes routes. Il commence à construire une rue. Il t'annonce même qu'il va construire une autoroute. Tu lui rappelles que les rues, c'est ton truc. C'est votre entente. Tu lui demandes donc de continuer de faire les maisons et de te donner les blocs pour construire toi-même les routes. C'est ta responsabilité après tout. C'est un peu ce que le gouvernement du Québec a dit après l'annonce de Justin Trudeau sur les repas à l'école. Il a rappelé au Canada que l'école était une responsabilité de la province et que c'était au Québec que les décisions se prenaient. Ça ne veut pas dire que le gouvernement québécois va refuser les sous du gouvernement canadien, mais il veut pouvoir gérer cette somme à sa façon. C'est un dossier à suivre et on le fera pour toi. Quel serait ton lunch idéal?
Oh, ils sont trop bons, ces gâteaux!
La terre a tremblé à Taïwan. Un texte de Tom Himmler, paru le 3 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Les habitants de Taïwan, une île située en Asie, ont ressenti un puissant tremblement de terre. Plusieurs centaines de personnes ont été blessées et 9 personnes sont mortes dans ce triste événement. Il était presque 8 heures quand la terre a tremblé à Taïwan, une île 50 fois plus petite que le Québec, située au large de la Chine. Même si l'épicentre, c'est-à-dire le point d'origine du tremblement de terre, a été localisé en mer, il y a eu de nombreuses conséquences dans l'est de l'île. La majorité des dégâts ont eu lieu autour de Houalien, une petite ville qui s'est retrouvée isolée après ce tremblement de terre. La majorité des routes et des voies de train qui menaient à cette ville ont été détruites, mais elles sont déjà en cours de reconstruction. Un séisme de magnitude 7,5. Pour mesurer la puissance d'un tremblement de terre, les experts utilisent l'échelle de Richter. Cette échelle va de 0, où l'on ne ressent pas le tremblement de terre, à 9, où l'on peut avoir des destructions sur des milliers de kilomètres. Le tremblement de terre qui a frappé Taïwan s'élève à 7,5 sur l'échelle de Richter, ce qui explique les impressionnantes images de dégâts. On a notamment pu observer des immeubles qui se sont penchés et tiennent tout juste en équilibre. Des victimes. Selon l'Agence nationale de lutte anti-incendie de Taïwan, le séisme a fait 9 morts et 821 personnes ont été blessées. 4 personnes sont mortes à la suite de glissements de terrain ou de chutes de pierres dans les montagnes qui couvrent une grande partie de l'île. Mais ces chiffres pourraient changer puisque les recherches sont encore en cours pour secourir des survivants. Beaucoup de destructions évitées. Les habitants de Taïwan ont l'habitude des tremblements de terre, car il y en a eu 8 depuis 2000. Par contre, ce séisme est le plus puissant en 25 ans. Cela fait longtemps que les autorités de l'île ont mis en place des règles très strictes pour s'assurer que les bâtiments puissent résister aux secousses. C'est grâce à ces règles que le nombre de blessés et de morts reste bas pour un tremblement de terre si intense. La dernière fois qu'un séisme aussi puissant avait eu lieu à Taïwan, plusieurs milliers de personnes avaient perdu la vie. Il semble donc que le pire a pu être évité. As-tu déjà ressenti les secousses d'un tremblement de terre? Pour être concentré, mieux vaut bouger. Un texte d'Émeric Epo, paru le 3 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. On sait que faire du sport, c'est bon pour la santé, mais savais-tu que bouger améliore aussi notre concentration? De nombreuses études montrent que l'activité physique et le TDAH, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, font bon ménage. Les As t'expliquent. Que montrent les études? Le TDAH est une réalité très courante chez les jeunes. Il fait en sorte qu'on a beaucoup de mal à se concentrer et peut s'accompagner d'impulsivité ou d'hyperactivité. Plusieurs scientifiques ont démontré que pratiquer une activité physique diminue les symptômes du TDAH. Ils ont, entre autres, observé que les élèves qui vivent avec ce trouble réussissent mieux leurs tests de lecture ou de mathématiques après avoir bougé pendant au moins 30 minutes. L'activité physique améliore même 3 types d'attention différents. L'attention soutenue, c'est la capacité à se concentrer pendant plusieurs minutes. L'attention partagée, c'est la capacité à traiter plusieurs sources d'informations en même temps, comme écouter et prendre des notes en classe. L'attention sélective, c'est la capacité à porter son attention sur les choses importantes, sans se laisser distraire par ce qui nous entoure. Sport d'élite pour la concentration. Toutes les activités physiques n'ont pas le même effet sur la capacité d'attention. Selon ces études, les activités aérobiques et motrices sont les plus efficaces, En voici quelques exemples. Course, natation, vélo, danse, corde à sauter, jeu avec ballon. Envie d'essayer par toi-même? Rappelle-toi que tu dois bouger pendant 30 à 45 minutes. La concentration s'améliore 15 minutes après la fin de l'activité physique et reste optimale pendant une heure environ. Il faut donc attendre un peu. Et selon les experts, on peut même ressentir ces effets bénéfiques longtemps, à condition qu'on bouge régulièrement, disons au moins 3 fois par semaine. Comment ça marche? En fait, ces activités physiques augmentent le volume de sang qui circule dans notre corps. Quand le flux sanguin augmente, le cerveau est mieux oxygéné et mieux alimenté en nutriments. Un cerveau nourri, c'est un cerveau qui se concentre mieux. Et toi? Pratiques-tu une activité sportive? Pour ou contre les poissons d'avril? Un texte d'Émeric Lépeau, paru le 2 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Récemment, c'était le 1er avril. Comme le veut la tradition, beaucoup de farceurs en ont profité pour jouer des tours. Et toi? Es-tu pour ou contre les poissons d'avril? Les arguments pour. Une tradition. Les origines du poisson d'avril pourraient remonter au 16e siècle. À cette époque, certains Français fêtent le Nouvel An le 1er avril. Le roi Charles IX décide alors d'imposer une date commune pour tout le pays le 1er janvier. Mais certaines personnes continuent de fêter le Nouvel An le 1er avril. Alors, pour se moquer d'eux, les gens leur jouent des tours. Il y a encore plus longtemps, en Grèce, le 1er avril rendait hommage à Momos, le dieu des jeux de mots et de la moquerie. Mais même si on ne sait pas précisément d'où vient cette coutume, une chose est sûre. On se joue des tours le 1er avril depuis des années. Des blagues originales à chaque année. Tous les ans, on a droit à des blagues complètement farfelues. Par exemple, l'année dernière, le service de police de Laval a dévoilé son tout nouveau véhicule de patrouille pour combattre le crime. Cette auto ressemblait étrangement à la Batmobile, la voiture de Batman. Et le pire, c'est que certaines personnes mordent à l'hameçon. Le plaisir de jouer des tours. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'adore jouer des tours à mes amis et mes proches. Enfin, j'avais très hâte d'arriver à l'école pour essayer de coller des poissons en papier dans le dos de mes amis sans qu'ils s'en aperçoivent. C'était tout un défi. Selon moi, il n'y a pas de meilleure journée dans l'année que le 1er avril pour faire des plaisanteries. Les arguments contre. La lutte contre la désinformation. Avec l'intelligence artificielle, créer une fausse nouvelle pour tromper les internautes est de plus en plus facile. Certains journalistes, spécialisés dans la lutte contre la désinformation, estiment qu'il y a déjà assez de fausses nouvelles sur Internet. Pas besoin d'en rajouter le 1er avril. Toutes les blagues ne sont pas drôles. Certains tours vont trop loin. Un tour qui vise à humilier une personne, lui faire de la peine ou la blesser, ce n'est simplement pas drôle. Le poisson d'avril ne doit pas devenir un prétexte pour intimider quelqu'un ou lui faire du mal. Et même si le tour est gentil, la personne pourrait se sentir humiliée ou en colère d'apprendre qu'on l'a mené en bateau. Il faut donc faire attention. Alors, dirais-tu que tu es pour ou contre le poisson d'avril?
En 1564, le roi Charles IX prit une grande décision.
Ça se fait comme ci. Ça se fait comme ça. Maintenant, le jour de l'an, c'est le 1er janvier. poil aux pieds.
Thomas rencontre. Marianne, jeune scientifique à la rescousse des lacs. Un texte de Thomas Montigny, paru le 30 mars 2024 sur le site Les As de l'Info. L'an dernier, Marianne Anger a gagné la finale québécoise de la Super Expo Science Hydro-Québec. Elle a impressionné tout le monde avec son invention. Une bouée qui oxygène les lacs. Âgée de 17 ans et originaire de Sherbrooke, Marianne m'a présenté son projet fascinant tout en me parlant de sa vie. Peux-tu me décrire plus précisément ton invention? Mon invention est une bouée qui utilise trois types d'énergie renouvelable, soit les courants d'air et de l'eau ainsi que l'énergie solaire. Son objectif est d'activer une pompe électrique qui injectera de l'air dans le lac afin de ralentir le phénomène d'eutrophisation. Ça, c'est quand un lac va mourir à cause d'un manque d'oxygène. Bref, ma bouée sert à prolonger la vie des lacs. D'où vient ton idée de créer cette bouée? Malheureusement, il y a un lac près de chez moi qui est mort à cause de ce phénomène engendré par les changements climatiques. Étant donné que j'aime beaucoup l'environnement, je voulais absolument trouver une solution à ce problème. Attends, un lac peut mourir? On dit souvent qu'un lac est mort lorsque tous ses poissons ont disparu. Seuls quelques espèces aquatiques, comme des insectes ou des bactéries, peuvent alors y vivre. Dans la nature, le fait que les lacs vieillissent est un processus normal. Le problème est quand les activités de l'homme accélèrent ce vieillissement. Qu'est-ce qui te passionne depuis longtemps dans les sciences? J'ai commencé à faire l'expo science au primaire et j'ai poursuivi durant mon secondaire pour réaliser plusieurs projets dans différents domaines des sciences. Par la suite, je me suis intéressé aux lacs et je me suis demandé comment je pouvais les aider. Le génie mécanique m'a apporté la solution car j'aime beaucoup faire des choses avec mes mains et résoudre des problèmes au niveau de l'environnement. Tu as même fait un stage en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Comment c'était? J'ai pu accéder au stage en remportant l'un des prix de l'Expo Science. L'Université de Sherbrooke voulait me donner la chance de voir si le génie mécanique était vraiment fait pour moi. Donc, les membres de l'équipe de l'université ont été très gentils et ils m'ont donné plusieurs conseils pour améliorer ma bouée. J'ai aussi pu avoir accès à des machines que je ne possédais pas chez moi. Qui est ton idole dans le domaine de la science? Mon idole est Farah Alibé, qui est une femme en science et elle m'inspire parce qu'elle travaille dans un domaine où il y a peu de femmes. C'est mon modèle, car elle a réussi à se rendre loin à la NASA. Si tu avais un message à passer aux As de l'Info, que leur dirais-tu? Je leur dirais de foncer dans leur passion et de toujours persévérer malgré les difficultés. C'est important de se relever et de continuer dans ce qui vous tient vraiment à cœur. Et toi? Si tu avais une invention à créer pour changer le monde, ce serait quoi? Dans quel but?
Qui contacte-t-on pour poser une question?
Le professeur Moustache.
Gare au gecko. Un texte de Camille Lopez, paru le 1er avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Dans les dernières années, plusieurs personnes sont tombées malades. Et il est fort probable que ce soit à cause des geckos. Comment? Ce lézard peut nous transmettre la salmonelle, une bactérie qui entraîne des symptômes très désagréables. Le gouvernement du Canada a averti les citoyens de 7 provinces, dont le Nouveau-Brunswick et le Québec, de faire attention à cet ami à écailles. Voici tout ce que tu dois savoir. C'est quoi le rapport avec les geckos? Selon l'Agence de la santé publique du Canada, 35 cas de salmonellose ont été déclarés dernièrement. La salmonellose, c'est une maladie provoquée par la bactérie appelée salmonelle. Elle peut, entre autres, entraîner des crampes au ventre, de la fièvre, des vomissements et des maux de tête. Certains peuvent tomber gravement malades. D'habitude, cette maladie est transmise par les aliments comme les fruits mal lavés ou le poulet cru. Mais l'Agence de la santé publique du Canada suspecte que plusieurs personnes ont été infectées par une source inattendue. Les geckos. C'est que ces reptiles peuvent être porteurs de la salmonelle sans que rien n'y paraisse. Des gens seraient donc tombés malades en touchant un gecko ou simplement en vivant dans la même maison qu'un petit lézard. Comment se protéger? Si tu as un gecko chez toi, pas de panique. Ton animal de compagnie n'a pas à déménager. Toi et ta famille devez toutefois être prudents et suivre ces règles très simples. Se laver les mains avec de l'eau et du savon tout de suite après avoir touché le lézard, son vivarium et tout autre endroit où il vit et joue. Il faut donc se laver les mains après l'avoir nourri, même si vous ne l'avez pas touché. Évitez de toucher son visage, surtout la bouche et les yeux, après l'avoir manipulé. Bisous interdits. Je sais. Ça peut être tentant de lui donner un petit bec, mais il faut éviter. Le garder loin des enfants de moins de 5 ans, des personnes enceintes et des personnes âgées. Laver le gecko et son vivarium dans un bac en plastique qui ne servira qu'aux lézards et non dans l'évier. Et voilà. Et toi, aimerais-tu avoir un reptile comme animal de compagnie? Lequel?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.